Il est 18h en France et vous êtes sur Europe 1.
Et cette fois, vous le disiez, c'est donc le D-Day, l'heure de vérité.
Oui, les premiers bureaux de vote ont ouvert à midi, heure française.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, scrute ce scrutin de très près. On le retrouvera en direct dès le début de ce journal.
On sera également en Floride avec Théo Manval, l'un des États clés dans la ville de Tampa. Là-bas, c'est 50% pour Trump, 50% pour Biden.
Et nous rejoindrons également Sonia Dridi à Washington, la capitale américaine qui redoute les prochaines heures. L'incertitude, l'Amérique est un peu à cran.
Dans l'actualité également ce soir, nous reviendrons aussi sur la gestion pour le moins chaotique du gouvernement français autour de la crise du Covid.
Après le couac sur les produits non essentiels dans les magasins, cette fois c'est le porte-parole du gouvernement qui a semble-t-il parlé un peu trop vite.
À Vienne, en Autriche, après l'attaque terroriste d'hier soir qui a fait 4 morts, les enquêteurs ont demandé l'aide de la population. Plus de 20 000 vidéos ont permis de retracer le parcours de l'assaillant.
Et puis vous n'avez pas de billets pour le Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy, c'est normal, il n'y a pas de spectateurs. Mais il y a Corinne Boulou sur Europe 1, sur place, on la rejoindra en direct. La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 44% à 4805 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
De la fraîcheur au programme demain chez nous en France.
Oui, avec des gelées blanches. Elles sont tardives hein, cette saison, mais elles seront bien là. Couvrez-vous demain. Mais le soleil, lui, s'impose presque partout. The sun is shining demain, mon cher Julien.
Bel
et je,
effort,
vous dis tout, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1 et même Anissa, donc à l'heure américaine en ce jour de vote, Donald Trump ou Joe Biden, qui sera le 46e président des États-Unis? Le suspense est à son comble.
Une élection qu'Europe 1 a choisi de vivre avec vous, au plus près, en direct de Washington, de New York, de Floride, de Virginie, avec nos correspondants et donc nos envoyés spéciaux.
Nous serons dans les bureaux de vote, dans les QG de campagne, auprès des supporters des deux camps, toute la soirée, toute la nuit et toute la journée de demain, bien
et
sûr.
Et ça commence tout de suite avec vous, Xavier Yvon, on vous retrouve en direct, vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1. Ça y est, c'est donc le moment de vérité. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à midi, heure française.
Oui, alors la grande question, c'est de savoir combien d'Américains n'ont pas encore voté, parce qu'ils sont plus de 100 millions à l'avoir fait avant aujourd'hui. C'est un record. Au total, il y a 4 ans, 138 millions d'Américains avaient voté en tout. Donc on se dirige vers une mobilisation jamais vue. Imaginez, il est midi ici et la Floride a déjà atteint le même niveau de participation qu'il y a 4 ans. Il y avait des files d'attente dans certains swing states avant le lever du jour. Caroline du Nord, Géorgie ou Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est là où se trouve en ce moment Joe Biden. Il vient encourager ses équipes qui font du porte-à-porte pour inciter les gens à aller voter. Acclamé, vous l'entendez, par une foule de supporters, le démocrate est aussi allé faire un tour dans sa maison natale de Scranton, une petite ville ouvrière. Il a même écrit un message sur le mur du salon. De cette maison à la Maison Blanche, par la grâce de Dieu, signé Joe Biden, 3 novembre 2020. Alors pour l'instant, on a un tout petit résultat, celui du petit village de Dixville Notch dans le New Hampshire. Ses habitants votent à minuit le jour de l'élection. C'est une tradition retransmise en direct par les télés. 5 suffrages exprimés, 5 voix pour Biden, 0 pour Trump. Pour le reste, il faudra attendre évidemment ce soir et cette nuit. Donald Trump, lui, suivra tout ça depuis la Maison Blanche.
En même temps, quand on se souvient l'élection de 2000 avec la victoire sur un fil en Floride de 500 voix, je crois, de George W. Bush, 5 voix, c'est déjà 5 voix, Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York. Vous restez évidemment avec nous tout au long de cette soirée américaine.
Et on va retrouver également tout au long de cette soirée Théo Manval. Théo, vous allez passer cette soirée, la nuit, la journée de demain avec nous. Vous êtes à Tampa, c'est en Floride, sur la côte Est. La Floride, c'est l'un des États clés, le plus gros des swing states, qui peut basculer demain d'un côté ou de l'autre. Donald Trump, qui est distancé dans les sondages, promet une vague républicaine. Alors Théo, vous qui avez passé ces dernières heures devant les bureaux de vote, est-ce que vous la sentez venir, cette vague Trump ?
Eh bien, en tout cas, elle s'affiche haut et fort hein, dans les rues, autour des bureaux. On voit passer régulièrement des pick-up avec de grands drapeaux Trump 2020, comme pour forcer le destin. Et dans la file, des fidèles comme Cathy, effectivement au rendez-vous pour tenter de faire mentir encore une fois les sondages.
One more for Trump.
Un bulletin de plus pour Trump.
What has been trying to
tout
do
est fait depuis le début pour le descendre, le dénigrer. Mais à la fin, la seule question qui compte, c'est est-ce qu'il fait son travail ? Et la réponse est oui. Donc j'espère vraiment. Mon vote va compter et j'ai confiance en lui.
Juste derrière elle, Annie croise les doigts, elle aussi, pour que cette vague Trump se concrétise. Persuadée que son vote en personne, en ce jour J, comptera un peu plus que les votes par correspondance. Mais tous ne sont pas aussi sereins, à l'image de Scott qui vient de glisser son bulletin sans croire vraiment au remake d'il y a 4 ans.
Non, je pense que Biden va gagner. Le nombre de gens qu'il déteste est bien moins important que ceux qui détestaient Hillary Clinton à l'époque. Donc, je serais très surpris que Trump y arrive.
Les démocrates, en tout cas, n'osent même plus dire combien ils y croient. Encore traumatisés comme des grands brûlés, dit cette jeune femme, par le souvenir de 2016.
Merci Théo Manval à Tampa, en Floride. Direction maintenant Washington, avec vous Sonia Dridi. Tous les regards sont donc tournés vers la Maison-Blanche.
Va-t-elle changer de locataire? La capitale américaine se prépare à accueillir son nouveau président avec quand même un peu d'inquiétude. Les prochaines heures risquent d'être agitées, Sonia.
Oui, tout à fait. Et des électeurs des deux camps craignent des tensions autour de l'annonce des résultats. Le vote anticipé bat des records cette année. Des retards de dépouillement sont à prévoir dans plusieurs États. Et selon le média américain Axios, Donald Trump a confié à des proches qu'il pourrait déclarer victoire ce soir s'il paraît avoir de l'avance. Depuis plusieurs mois, il fait planer le doute sur des fraudes d'une ampleur inédite. Beaucoup d'électeurs aujourd'hui m'ont dit s'attendre à une nuit électorale très compliquée. La capitale a des allures de camp retranché. Les magasins, hôtels, banques se sont barricadés avec des planches en bois dans la crainte d'éventuelles violences. Il n'y a pas un chat dans les rues du centre-ville. Beaucoup d'habitants ont décidé de travailler de chez eux aujourd'hui ou de prendre un jour de congé. La Maison-Blanche a, elle, fait ériger hier soir de nouvelles barrières pour se calfeutrer un peu plus. Et c'est dans cette prison dorée que Donald Trump va passer la soirée électorale. Il a invité quelques 400 personnes dans une grande salle des fêtes pour lui tenir compagnie sans se soucier de devoir respecter les mesures sanitaires en vigueur dans la capitale.
Merci Sonia Dridi, en direct donc de Washington.
Et on poursuit cette soirée américaine ensemble jusqu'à 20h. On s'intéressera notamment à la personnalité de Joe Biden. Qui est-il vraiment? Et puis dans 10 minutes, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, sera avec nous à 18h20. Il est 18h07, pardon, en France. La vie politique est également agitée en ce moment.
Et pourtant pas d'élection en vue, pas dans l'immédiat en tout cas, mais une opposition qui tire à boulet rouge sur un gouvernement dont la gestion de la crise sanitaire est de plus en plus contestée.
Oui, avec d'abord, on en parlait hier, la question de la fermeture des commerces et des produits jugés essentiels ou pas.
Et que les grandes surfaces peuvent continuer à vendre pendant le confinement. Alors ça y est, cette fois, on a la liste. Produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture seront bien dans les rayons des grandes surfaces, en plus de ceux déjà considérés bien sûr comme essentiels.
Et dans la cacophonie ambiante, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en a rajouté une couche ce matin en déclarant qu'un couvre-feu allait être instauré à Paris en plus du confinement.
Gabriel Attal recadré un peu après par Matignon, pas de couvre-feu, en tout cas pas pour l'instant, annonce, contre-annonce, manque de lisibilité, forcément l'opposition s'en est donnée à cœur joie cet après-midi à l'Assemblée nationale où vous vous trouvez Claudia Bertram.
Et oui, à droite comme à gauche, l'opposition n'a pas mâché ses mots. Écoutez le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.
Le gouvernement ne sait plus quelles mesures prendre pour enrayer la courbe de l'épidémie. Et donc couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, à quel niveau, petit commerce, etc. C'est n'importe quoi.
Et au-delà du couac du gouvernement ce matin, c'est la gestion de l'épidémie par le gouvernement qui est remise en question par le chef de file des députés LR, Damien Abad.
Il n'y a pas de pilote dans l'avion. On l'a vu aussi hier avec la question des commerces essentiels et non essentiels. On n'y comprend plus rien, ça donne le tournis, ça déboussole les Français. Ce gouvernement, ce sont les professionnels de l'amateurisme.
Et sur la question des commerces, justement, dans l'hémicycle, Jean Castex a fermement répondu aux élus qui ont appelé les maires à prendre des arrêtés municipaux pour rouvrir les commerces de proximité.
Quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible.
Le Premier ministre largement applaudi par la majorité, vous l'entendez. Pourtant, certains regardent tout cela un peu dépité. Ça dysfonctionne à tous les étages, on ne sait pas où on va, me confiait un député En Marche.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1 et noté que cet après-midi, la justice a suspendu l'arrêté municipal autorisant l'ouverture des petits commerces à Colmar. Et puis, à partir de demain, la SNCF va supprimer progressivement jusqu'à 70% de ses TGV Inouï et Ouigo. La fréquentation s'est bien sûr effondrée avec le reconfinement. Au plus fort du premier confinement, 93% des TGV avaient été supprimés. L'offre des métros va également être réduite à Paris.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine. Julien Bugier.
18h10, vous restez avec nous. La suite de votre journal dans une poignée de secondes. Après l'attaque de Vienne en Autriche hier soir, les enquêteurs ont mis à contribution la population avec des résultats. On en parle.
Et puis un Français positif au Covid au Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy.
Europe Soir, le 18-20.
Spéciale présidentielle américaine. et Julien Bugier.
Oui, 18h11, la suite de votre journal et de l'édition spéciale américaine. On en reparlera dans quelques secondes. D'abord, on part en Autriche. L'Autriche, à son tour, frappée par le terrorisme avec cette attaque hier soir dans la capitale, Vienne. Un homme armé a tué 4 personnes, Isabelle.
Oui, et l'enquête progresse. On en sait plus sur le profil de cet homme de 20 ans qui avait prêté allégeance à l'État islamique et qui, a priori, aurait agi seul. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Hélène, on avait parlé dans un premier temps d'un deuxième assaillant.
Oui, et la police autrichienne a eu recours à une technique d'enquête originale. Elle a demandé à la population de Vienne de lui faire parvenir toutes les vidéos et les photos prises pendant les 9 minutes qu'a duré l'attaque. Une plateforme spéciale a été ouverte et en quelques heures, il y a eu 20 000 vidéos postées, 1 téraoctet de données. Les fusillades sont filmées par les habitants sous différents angles, mais à aucun moment, on ne voit effectivement de deuxième homme, de deuxième assaillant. L'enquête se concentre donc sur l'homme abattu la nuit dernière, un Autrichien de 20 ans, né dans la banlieue de Vienne, fils d'immigrés albanais de Macédoine. L'an dernier, il a fait de la prison après avoir tenté de partir en Syrie et son comportement a trompé tout le monde, reconnaît le ministre autrichien de l'Intérieur.
Il a été condamné à 22 mois de prison, mais il a bénéficié d'une remise de peine, justement parce qu'il montrait des signes d'intégration à la société, notamment en participant au programme de déradicalisation. Et il se montrait très engagé dans les discussions avec son agent de probation.
En réalité, chez lui, il avait stocké des milliers de documents attestant de son allégeance à Daesh. Il avait aussi gardé des contacts avec des djihadistes allemands rencontrés à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et ce soir, on vient de l'apprendre, il y a eu 2 arrestations en Suisse, près de Zurich, directement liées à l'enquête.
Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. La crainte du terrorisme qui conduit aujourd'hui le Royaume-Uni à relever son niveau d'alerte. L'actualité sportive avec Julien, du foot ce soir. Hein.
Oui, l'Olympique de Marseille défie le FC Porto. Ça se passe en Ligue des Champions.
Ouais, l'OM qui doit s'imposer s'il veut conserver une chance de poursuivre l'aventure. On sera sur place à Porto à 19h avec Jean-François Pérez. Et puis du tennis, deuxième journée du Masters 1000 de Paris-Bercy. 6 Français sur les cours. On vous retrouve en direct, Corinne Boulou. Pour l'instant, 2 qualifiés, Richard Gasquet et Pierre Hugerbert. 1 éliminé, Gilles Simon et un autre, Corinne, écarté du tournoi.
Oui, il s'agit de Corentin Moutet. Après confirmation ce matin de son test positif au Covid, le jeune Parisien de 21 ans a été placé à l'isolement. Il était pourtant hier sur le court. Premier Français qualifié de cette édition de Bercy à huis clos pour cause de confinement. Corentin Moutet devait même ce soir affronter le Croate Cilic. Il n'en aura pas la possibilité, bien entendu. C'est le protocole, comme quoi il ne peut y avoir de bulle sanitaire hermétique à 100%. D'ailleurs, Richard Gasquet nous confirmait tout à l'heure après sa victoire que les joueurs étaient testés tous les 4 jours. Comme tous les accrédités d'ailleurs sur le tournoi, arbitre, ramasseur de balles ou journaliste, lui qui fut contact de Benoît Paire à l'US Open est placé en 14e, reconnaît qu'aujourd'hui nul n'est à l'abri et qu'il faut faire attention en permanence avec la peur de voir ce fichu virus tout gâcher, Isabelle.
Effectivement, merci Corinne Boulou. On attend le dernier Français du jour, hein, Hugo Humbert qui affrontera le grec Tsitsipas, le récent demi-finaliste de Roland-Garros.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 18h30 pour le rappel des titres.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale électorale. Élection américaine.
Julien Bugier.